Petit bonhomme, chapitre 14. Et il n'avait pas encore 9 ans. Ce grand jour écoulé, la ferme se remit aux travaux des champs. On en abattit de la besogne. À coup sûr, Pat ne s'aperçut guère qu'il était venu en congé de repos. De quelle ardeur il aidait son père et ses frères! Ces marins sont véritablement de rudes travailleurs, même en dehors de la marine. Pat était arrivé au plus fort de la moisson, qui fut suivie de la récolte des légumes. Il est permis de dire s'il se pomoya comme un gabier de misaine, expression dont il se servit et qu'il fallut expliquer à petit bonhomme. On n'était jamais quitte avec lui tant qu'on ne lui avait pas donné le pourquoi des choses. Il ne s'éloignait guère de Pat, qu'il avait pris en amitié, une amitié de matelot pour son mousse. Dès que la journée était finie, lorsque tout le monde était rassemblé à la table du souper, quelle joie petit bonhomme éprouvait à entendre le jeune marin raconter ses voyages, les incidents auxquels il avait pris part, les tempêtes qu'avait essuyées le Guardian, les belles et rapides traversées des navires. Ce qui l'intéressait surtout, c'étaient les riches cargaisons rapportées pour le compte de la maison Marquardt, l'embarquement des marchandises dont le 3 mois était chargé à destination de l'Europe. Sans aucun doute, ces choses du négoce frappaient d'un trait plus vif son esprit pratique. À son idée, l'armateur passait avant le capitaine. « Alors ?» demandait-il à Pat. « C'est bien cela qu'on appelle le commerce ?»« Oui, on embarque les produits qui se fabriquent dans un pays et on va les vendre dans un pays où on ne les fabrique pas. » « Plus cher qu'on ne les a achetés ?»« Bien entendu, pour gagner dessus. Puis, on importe les produits des autres contrées pour les revendre. »« Toujours plus cher, Pat. »« Toujours plus cher, quand on le peut. » Et si Pat fut 100 fois questionné de cette façon pendant son séjour à la ferme de Kerouan, c'est à ne point le croire. Par malheur, au grand chagrin de tous, le moment arriva où il dut quitter la ferme et retourner à Liverpool. Le 30 septembre fut le jour des adieux. Pat allait se séparer de tous ceux qu'il aimait. Combien de temps serait-on sans le voir? On ne savait, mais il promit d'écrire, et d'écrire souvent. Avec quelle émotion ce brave garçon fut embrassé de tous! Grand-mère était là, pleurant. La retrouverait-il au retour? Devant l'âtre, filant sa quenouille, au milieu de ses enfants, la pauvre vieille femme si âgée. Du moins, la laissait-il en bon état de santé, comme tous ceux de sa famille. Puis, l'année avait été favorable aux cultivateurs du comté, et il n'y avait rien à craindre pour l'hiver qui se faisait déjà sentir. Aussi, Pat dit-il à son frère aîné, « Je voudrais te savoir moins soucieux, Murdoch. » On se tire d'affaire avec du courage et de la volonté. Oui, Pat, si la chance est avec soi, mais on ne commande pas à la chance. Vois-tu, frère, sans cesse travailler sur une terre qui n'est pas à vous, qui ne deviendra jamais la vôtre, et par surcroît être à la merci d'une mauvaise récolte, ni le courage ni la volonté n'y peuvent rien. Pat n'aurait su que répondre à son aîné, et cependant, lorsqu'il lui donna une dernière poignée de main, « Aie confiance » murmura-t-il. Le jeune marin fut reconduit en carriole jusqu'à Tralee. Il était accompagné de son père, de ses frères et de petit bonhomme, qui eut sa bonne part des adieux. Le train l'emporta vers Dublin, d'où le paquebot devait le transporter à Liverpool. Il y eut encore grande besogne à la ferme pendant les semaines qui suivirent. La moisson engrangée, vint le moment de battre, et cela fait, M. Martin dut courir les marchés afin de vendre ses produits, en ne conservant que les grains de semailles. Ces ventes intéressaient notre petit garçon au plus haut point. Aussi le fermier l'emmenait-il avec lui. Qu'on n'accuse pas cet enfant de 8 ans de se montrer âpre au gain, non. Il était ainsi, et son instinct le poussait au commerce. Du reste, Il se contentait du caillou que Martin McCarthy lui remettait chaque soir, suivant les conventions, et il se félicitait de voir grossir son trésor. Nous ferons observer d'ailleurs que le désir du lucre est inné chez la race irlandaise. Ils aiment à gagner de l'argent, les habitants de la Verte Erin, à la condition toutefois de l'avoir honnêtement acquis. Et lorsque le fermier avait conclu une bonne affaire au marché de Tralee ou dans les bourgades voisines, petit bonhomme s'en montrait aussi heureux que si elle eût été faite à son profit. Octobre, novembre, décembre s'écoulèrent en d'assez bonnes conditions. Les travaux étaient depuis longtemps achevés, lorsque le receveur des fermages vint, la veille de Noël, se présenter à Kerouan. L'argent était prêt. Mais, une fois échangé contre un reçu en règle, il n'en restait plus guère à la ferme. Aussi, ne voulant point voir partir cet argent si péniblement arraché du sol d'autrui, Murdoch s'était-il hâté de sortir dès qu'on avait aperçu le receveur. C'était toujours là l'inquiétude de l'avenir. Heureusement, l'hiver était assuré, et les réserves permettraient de recommencer les labours au printemps sans dépenses supplémentaires. Avec la nouvelle année, survinrent des froids excessifs. On ne quittait plus guère la ferme. Il est vrai, le travail ne manquait pas à l'intérieur. Ne fallait-il pas pourvoir à la nourriture et à l'entretien des animaux? Petit bonhomme était chargé spécialement de la basse-cour, et l'on pouvait s'en rapporter à lui. Les poules et les poussins étaient aussi soigneusement traités qu'enregistrés. Entre-temps, il n'oubliait pas qu'il avait une filleule. Quelle joie il éprouvait à tenir Jenny sur ses bras, à provoquer son sourire en lui souriant, à lui chanter des chansons, à la bercer pour l'endormir lorsque sa mère était occupée de quelque besogne. C'est qu'il avait pris ses fonctions au sérieux. Un parrain, c'est presque un père. Et il regardait la petite fille comme son enfant. À son sujet, il formait des projets d'avenir très ambitieux. Elle n'aurait pas d'autre maître que lui. Il lui apprendrait à parler d'abord, puis à lire, à écrire, enfin à tenir sa maison plus tard. Observons ici que petit bonhomme avait profité des leçons de Monsieur Martin et de ses fils, surtout de celles que lui donnait Murdoch. À cet égard, il n'en était plus où l'avait laissé Grippe, ce pauvre Grippe qui occupait toujours sa pensée et dont le souvenir ne devait jamais s'effacer. Le printemps reparut sans trop de retard, à la suite d'un hiver qui avait été assez rude. Le jeune berger, accompagné de son ami Birke, reprit sa tâche habituelle. Sous sa garde, les moutons et les chèvres retournèrent à travers les pâtures dans un rayon d'un mille autour de la ferme. Combien il lui tardait que son âge lui permît de prendre part aux travaux de labour, exigeant une vigueur dont il était encore dépourvu, à son vif chagrin. Quelquefois il en parlait à grand-mère, qui lui répondait en hochant la tête « Patience, cela viendra !» Mais en attendant, est-ce que je ne pourrais pas semer un bout de champ ? Cela te rendrait-il heureux ? Oui, grand-mère. Lorsque je vois Murdoch ou Sim lancer les grains sur le sillon, balançant leurs bras et marchant d'un pas régulier, j'ai bonne envie de les imiter. C'est un si beau travail, et il est si intéressant de penser que ce grain va germer dans les sillons de cette terre, et qu'il en sortira des épis longs, longs. Comment cela se peut-il faire? Je n'en sais rien, mon enfant, mais Dieu le sait, ce qui doit nous suffire. Il résulta de cette conversation que l'on vit, quelques jours après, petit bonhomme arpenter une pièce préparée à la charrue et au rouleau, et lancer la semence d'avoine avec une adresse parfaite, ce qui lui valut les compliments de Martin McCarthy. Aussi, lorsque les fines pointes vertes commencèrent à sortir, quelle obstination il mit à défendre sa future moisson contre les corbeaux pillards, se levant à la pointe du jour pour les poursuivre à coups de pierre. N'oublions pas de mentionner, en outre, qu'à la naissance de Jenny, il avait planté un petit sapin au milieu de la grande cour, avec cette pensée qu'ils grandiraient tous les deux ensemble, l'arbuste et le bébé. Et ce frêle arbuste, ce n'était pas sans peine qu'il s'ingéniait à le protéger contre les oiseaux malfaisants. Décidément, petit bonhomme et les représentants de cette gente dévastatrice ne seraient jamais bons amis. Cet été de 1880, on travailla dur dans les campagnes de l'Ouest Irlande. Par malheur, les circonstances climatériques se montrèrent peu favorables au rendement du sol. En la plupart des comtés, il fut très inférieur à celui de l'année précédente. Néanmoins, la famine n'étant point à craindre, puisque la récolte des pommes de terre promettait d'être abondante, quoique tardive, ce dont il fallait se louer, car les emblavures ne réussissent point, et du blé, il y en eut à peine. Quant aux seigles, aux orges, aux avoines, on dut reconnaître que ces diverses céréales allaient être insuffisantes pour les besoins du pays. Sans doute cela amènerait une hausse des prix. Mais en quoi les cultivateurs profiteraient-ils de cette hausse, puisqu'ils n'auraient rien à vendre, étant forcés de conserver le peu qu'ils récolteraient pour les semailles de la prochaine année? Aussi, ceux qui avaient pu faire quelques économies devaient-ils s'attendre à les sacrifier, d'abord pour le paiement des diverses taxes, puis tout l'argent disparaîtrait jusqu'au dernier shilling lors du règlement des fermages. La conséquence de cet état de choses fut que le mouvement nationaliste tendit à s'accentuer dans les comtés. C'est ce qui arrive toutes les fois qu'un nuage de misère se lève à l'horizon des campagnes irlandaises. En maint endroit, retentirent les récriminations mêlées aux cris désespérés des partisans de la Ligue agraire. De terribles menaces furent proférées contre les propriétaires du sol, qu'ils fussent ou non étrangers. Et on n'a pas oublié que les landlords écossais ou anglais étaient considérés comme tels. Cette année-là, en juin, à Westport, les gens, ameutés par la faim, venaient de s'écrier « Accrochez-vous d'une poigne solide à vos fermes !» Et le mot d'ordre qui courait à travers les campagnes, c'était « La terre aux paysans !» Quelques scènes de désordre éclatèrent sur les territoires du Donegal, du Sligo, du Galway. Le Kiwi n'en fut point exempt. Très effrayé, grand-mère, Martine et Kitty virent trop souvent Murdoch quitter la ferme à la nuit close et n'y reparaître que le lendemain, fatigué par de longues étapes, et plus sombre, plus ulcéré que jamais. Il revenait de ces meetings organisés dans les principales bourgades où l'on prêchait la révolte, le soulèvement contre les lords, le boycottage général, qui obligerait les propriétaires à laisser leurs terres en friche. Et ce qui accroissait les craintes de la famille au sujet de Murdoch, c'est que le lord lieutenant pour l'Irlande, décidé aux plus énergiques mesures, faisait surveiller de très près les nationalistes par ses brigades de police. M. Martin et Sim, éprouvant les mêmes sentiments que Murdoch, ne disait rien quand celui-ci était de retour après une absence prolongée. Mais les femmes, elles, le suppliaient d'être prudent, de prendre garde à ses actes, à ses paroles. Elles voulaient lui arracher la promesse de ne pas s'associer aux rébellions en faveur du « Home Rule » qui ne pouvait amener qu'une catastrophe. Murdoch éclatait alors, et la grande salle retentissait de ses colères. Il parlait, il s'emportait, comme s'il eût été dans le feu de quelque meeting. La misère, après toute une vie de travail, la misère sans fin, répétait-il. Et tandis que Martine et Kitty tremblaient à la pensée que Murdoch aurait pu être entendu du dehors, en cas que quelque agent eût rôdé autour de la ferme, M. Martin et Sim, assis à l'écart, courbaient la tête. Petit bonhomme assistait à ces tristes scènes, très ému. Après avoir subi tant d'épreuves, n'était-il donc pas arrivé au terme de ses misères le jour où il avait été recueilli à Kerwan? L'avenir lui en réservait-il de plus dur encore? Il avait alors 8 ans et demi. Fortement constitué pour son âge, ayant eu la chance d'échapper aux maladies de l'enfance, ni les souffrances, ni les mauvais traitements, ni le manque de soins n'avaient pu affaiblir son organisme. On dit des chaudières à vapeur qu'elles ont été éprouvées à tant d'atmosphères quand on les a soumises aux pressions correspondantes. Eh bien, petit bonhomme avait été éprouvé, c'est le mot, éprouvé jusqu'à son maximum de résistance, et il était capable d'une surprenante endurance physique et morale. Cela se voyait à ses épaules développées, à sa poitrine déjà large, à ses membres grêles mais nerveux et bien musclés. Sa chevelure tendait à brunir et il la portait courte au lieu de ces boucles que Miss Anna Watson faisait frisoter sur son front. Ses yeux, d'un iris bleu foncé, allumés d'une prunelle étincelante, témoignaient d'une extraordinaire vivacité. Sa bouche, légèrement serrée des lèvres, son menton un peu fort, indiquaient l'énergie et la décision de son caractère. C'est ce qui avait plus particulièrement attiré l'attention de sa nouvelle famille. Ces gens de culture, sérieux et réfléchis, sont d'assez bons observateurs. Il n'avait pu leur échapper que ce garçonnet était un enfant remarquable par ses instincts d'ordre, d'application, et certainement il s'élèverait s'il trouvait jamais l'occasion d'exercer ses aptitudes naturelles. Les périodes affectées aux travaux de la fenaison et de la moisson présentèrent des conditions moins favorables que l'année précédente. Il y eut un déficit assez considérable, tel qu'on l'avait prévu en ce qui concernait les grains. Le personnel de la ferme suffit aisément à la besogne, sans qu'il eût été besoin de recourir aux bras du dehors. Cependant, la récolte des pommes de terre fut belle. C'était la nourriture en partie assurée pour la mauvaise saison. Mais cette fois, comment se procurerait-on l'argent nécessaire au paiement des fermages et des redevances? L'hiver revint, très précoce. Dès le commencement de septembre, on reçut le premier coup des grands froids. Puis, d'abondantes neiges tombèrent. Il fallut de bonne heure rentrer les animaux à l'étable. La couche blanche était si épaisse, si persistante, que ni les moutons ni les chèvres n'auraient pu atteindre l'herbe du sol. De là, cette crainte très fondée que les fourrages fussent insuffisants jusqu'au retour du printemps. Les plus prudents, ou du moins ceux qui en avaient les moyens, et Martin McCarthy fut du nombre, durent se précautionner par des achats. Il est vrai, ils ne parvinrent à les réaliser qu'à des prix très élevés, vu la rareté de la marchandise. Et peut-être eût-il mieux valu se défaire des animaux, dont l'entretien serait compromis par une longue hibernation. C'est une circonstance très fâcheuse en tout pays que ces froids qui gèlent la terre à plusieurs pieds de profondeur. Surtout lorsque, légère et siliceuse comme en Irlande, elle a mal retenu le peu d'engrais qu'il est possible d'y mettre. Quand l'hiver se poursuit avec une ténacité devant laquelle le cultivateur est désarmé, il est à craindre que la congélation se prolonge au-delà des limites normales. Et que peut le soc de la charrue, alors que l'humus a conservé la dureté du silex? Et si les semailles n'ont pas été faites à temps, quelle misère en perspective! Mais il n'est pas donné à l'homme de modifier les hasards climatériques d'une saison. Il en est donc réduit à se croiser les bras, tandis que ses réserves s'épuisent de jour en jour. Et les bras croisés ne sont pas des bras qui travaillent. Avec la fin de novembre, cet état de choses empira. Aux tourmentes de neige succéda une température des plus rigoureuses. Maintes fois, la colonne thermométrique s'abaissa à 19 degrés au-dessous du zéro centigrade. La ferme, recouverte d'une carapace durcie, ressemblait à ces huttes groenlandaises, perdues dans l'immensité des paysages polaires. À la vérité, cette épaisse couche de neige conservait à l'intérieur la chaleur des foyers et on ne souffrait pas trop de cet excès de froidure. Par exemple, au dehors, au milieu de cette atmosphère calme dont les molécules semblaient être gelées, il était impossible de s'aventurer sans prendre certaines précautions. Ce fut à cette époque que Martin McCarthy et Murdoch, en prévision des fermages qu'ils auraient à payer dans quelques semaines, se virent contraints de vendre une partie de leur bétail, entre autres un fort lot de moutons. Il importait de ne pas s'attarder pour toucher de l'argent chez les marchands de Twelly. On était au 15 décembre. Comme la carriole n'aurait pu que très difficilement rouler à la surface de la couche glacée, le fermier et son fils prirent la résolution d'entreprendre le voyage à pied. Par 20 degrés de froid, 24 milles à parcourir en ces conditions, cela ne laissait pas d'être très pénible. Très probablement, leur absence durerait 2 ou 3 jours. On ne les vit pas sans inquiétude quitter la ferme dès les premières lueurs de l'aube. Bien que le temps fût très sec, de lourdes vapeurs qui s'épaississaient vers l'ouest menaçaient de le modifier prochainement. Monsieur Martin et Murdoch étant partis le 15, on ne devait pas les attendre avant le soir du 17. Jusqu'au soir, l'état atmosphérique ne changea pas d'une manière sensible. Il se produisit encore un abaissement du thermomètre 1 ou 2 degrés. La brise se leva dans l'après-midi, et ce fut un autre sujet d'anxiété, car la vallée de la Cachaine se trouble avec une extraordinaire violence lorsque les vents de mer s'y engouffrent au cours de la période hivernale. Pendant la nuit du 16 au 17, la tempête se déchaîna furieusement, accompagnée d'épais tourbillons de neige. À 10 pas de la ferme, on ne l'aurait pas aperçu sous son manteau blanc. Le fracas des glaçons entrechoqués sur la rivière était épouvantable. À 7 heures, Monsieur Martin et Murdoch s'étaient-ils déjà remis en route après avoir terminé leurs affaires à Twelly? On ne savait. Ce qui est certain, c'est que le 18 au soir, ils n'étaient pas de retour. La nuit se passa au milieu du tumulte des rafales. On imaginera sans peine quelles durent être les angoisses de grand-mère, de Martine, de Kitty, de Sim et de petit bonhomme. Peut-être le fermier et son fils étaient-ils alors perdus dans les remous du chasse-neige. Peut-être étaient-ils tombés à quelques milles de la ferme, épuisés, mourant de faim et de froid. Le lendemain, vers 10 heures du matin, il se fit une éclaircie à l'horizon, et les assauts de la bourrasque diminuèrent. Par suite d'une saute de vent vers le nord, les neiges accumulées se solidifièrent en un instant. Sim déclara qu'il allait se porter au-devant de son père et de son frère en emmenant Birke. Sa résolution fut approuvée, à la condition qu'il permettrait à Martine et à Kitty de l'accompagner. Il en résulta donc que petit bonhomme, malgré son désir, dut rester à la maison avec grand-mère et le bébé. Il fut bien convenu, d'ailleurs, que les recherches se borneraient à l'exploration de la route sur 2 ou 3 milles, et que, pour le cas où Sim jugerait à propos de les poursuivre au-delà, Martine et Kitty rentreraient avant la nuit. Un quart d'heure après, grand-mère et petit bonhomme étaient seuls. Jenny dormait dans la chambre à côté de la salle, la chambre de Murdoch et de Kitty. Une sorte de corbeille, suspendue par 2 cordes à l'une des poutres du plafond, selon la mode irlandaise, servait de berceau à l'enfant. Le fauteuil de grand-mère était placé devant l'âtre, où petit bonhomme entretenait un bon feu de tourbe et de bois. De temps en temps, il se levait, il allait voir si sa filleule ne s'éveillait point, s'inquiétant du moindre mouvement qu'elle faisait, prête à lui donner un peu de lait tiède ou même à la rendormir en balançant doucement son berceau. Grand-mère, tourmentée par l'inquiétude, prêtait l'oreille à tous les bruits du dehors. Grésillement des neiges qui se durcissaient sur le chaume, gémissement des haies qui craquaient sous les piqûres du froid. « Tu n'entends rien, petit bonhomme ?» disait-elle. « Non, grand-mère. et après avoir égratigné les vitres zébrées de givre, il essayait de jeter un regard à travers la fenêtre qui donnait sur la cour toute blanche. Vers midi et demi, la petite fille poussa un léger cri. Petit bonhomme se rendit près d'elle. Comme elle n'avait pas ouvert les yeux, il se contenta de la bercer pendant quelques instants, et le sommeil la reprit. Il se disposait à retourner près de la vieille femme, qu'il ne voulait pas laisser seule, lorsqu'un bruissement se fit entendre à l'extérieur. Il écouta avec plus d'attention. Ce n'était qu'une sorte de grattement qui lui parut venir de l'étable contiguë à la chambre de Murdoch. Toutefois, celle-ci en étant séparée par un mur plein, il ne se préoccupa pas autrement de ce bruit. Quelques rats, sans doute, qui couraient entre les bottes de litière. Quant à la fenêtre, elle était fermée, et il n'y avait rien à craindre. Petit bonhomme, ayant eu soin de repousser la porte qui séparait les deux chambres, s'empressa de rentrer. « Et Jenny ?» demanda grand-mère. « Elle s'est rendormie. » « Alors reste près de moi, mon enfant. »« Oui, grand-mère. » Tous deux, courbés devant l'âtre flambant, reparlèrent de Martin et de Murdoch, puis de Martine, de Kitty, de Sim, qui étaient allés à leur rencontre. Pourvu qu'il ne leur fût pas arrivé malheur. Au milieu de ces tempêtes de neige, il se produit parfois de si terribles catastrophes. Bah, des hommes énergiques et vigoureux savent se tirer d'affaire. Dès qu'ils rentreraient, ils trouveraient un bon feu dans le foyer, un grog brûlant sur la table. Petit bonhomme n'aurait qu'à jeter une brassée de fagots au fond de l'âtre. Depuis 2 heures déjà, Martine et les autres étaient partis, et rien n'annonçait leur prochain retour. « Voulez-vous que j'aille jusqu'à la porte de la cour, grand-mère ?» proposa Petit Bonhomme. « De là, je m'avancerai sur la route afin de voir plus loin. »« Non, non, il ne faut pas que la maison reste seule, » répondit grand-mère. « Et elle est seule lorsqu'il n'y a que moi à la garder. » Ils se remirent à causer. Mais bientôt, ce qui arrivait quelquefois, la fatigue et l'inquiétude aidant, la vieille femme ne tarda pas à s'assoupir. Petit bonhomme, suivant son habitude, lui glissa un oreiller derrière la tête, se promettant d'éviter tout bruit qui pourrait la réveiller. Et il vint se poster près de la fenêtre. Après en avoir dégagé une des vitres, il regarda. Tout était blanc au dehors. Tout était silencieux comme dans un enclos de cimetière. Puisque grand-mère dormait, puisque Jenny reposait dans la chambre à côté, quel inconvénient y aurait-il à se porter jusqu'à la route? Cette curiosité, ou plutôt ce désir de voir si personne ne venait, était très excusable. Petit bonhomme ouvrit donc la porte de la salle et la referma doucement. Et, s'enfonçant à mi-jambe dans la couche de neige, il gagna la barrière à l'entrée de la cour. Sur la route, blanche à perte de vue, personne. Nul bruit de pas dans la direction de l'ouest. Martine, Kitty et Sim n'étaient point à proximité, car les aboiements de Birk se fussent fait entendre de loin par ces froids vifs qui portent la voix à de grandes distances. Petit bonhomme s'avança jusqu'au milieu de la chaussée. En ce moment, un nouveau grattement attira son attention, non sur la route, mais dans la cour, à droite des bâtiments du côté des étables. On eût dit que ce grattement était accompagné d'un hurlement étouffé. Petit bonhomme, immobile, écoutait. Le cœur lui battait fort. Mais bravement, il se dirigea vers le mur des étables. Et ayant tourné l'angle de ce côté, il se glissa à pas sourd par précaution. Le bruit se faisait toujours entendre à l'intérieur, derrière l'angle occupé par la chambre de Murdoch et de Kitty. Petit bonhomme, dans le pressentiment de quelque malheur, vint en rampant le long de la muraille. À peine eut-il dépassé l'angle qu'un cri lui échappa. En cet endroit, le paillis avait été désagrégé. Au milieu du mortier, effrité par le temps, se découpait un assez large trou qui s'ouvrait sur la chambre où dormait Jenny. Qui avait fait cette brèche? Était-ce un homme? Était-ce un animal ? Sans hésiter, petit bonhomme s'élança d'un bond et pénétra dans la chambre. Juste à ce moment, un animal de forte taille s'en échappait et, en s'enfuyant, renversa le jeune garçon. C'était un loup, un de ces loups vigoureux, à museau pointu en forme de coin, qui rôde par bandes à travers les campagnes irlandaises pendant les longs hivers. Après avoir déchiré le paillis et s'être introduit dans la chambre, il avait arraché le berceau de Jenny, dont les cordes s'étaient rompues, et se sauvait en le traînant sur la neige. La petite fille jetait des cris. Se mettre à la poursuite du loup, son couteau à la main, petit bonhomme n'hésita pas à le faire, appelant au secours d'une voix désespérée. Mais qui aurait pu l'entendre? Qui aurait pu lui venir en aide? Et si le féroce animal se retournait contre lui? Est-ce qu'il songeait à cela? Est-ce qu'il se disait qu'il risquait sa vie? Non, il ne voyait que l'enfant emporté par cette énorme bête. Le loup détalait rapidement, tant ce berceau qu'il tirait par une des cordes lui pesait peu. Petit bonhomme dut courir pendant une centaine de pas avant de l'atteindre. Après avoir contourné les murs de la ferme, le loup s'était élancé sur la grande route et il l'a remonté vers Twally lorsqu'il fut rejoint par petit bonhomme. Le loup s'arrêta et, lâchant le berceau, se précipita sur le jeune garçon. Celui-ci l'attendit de pied ferme, la main tendue, et au moment où l'animal lui sautait à la gorge, il lui enfonça son couteau dans le flanc. Mais ce ne fut pas sans que le loup l'eût mordu au bras. Et cette morsure fut si douloureuse qu'il tomba, inanimé, sur la neige. Par bonne chance, avant qu'il eût perdu connaissance, des aboiements se firent entendre. C'était Birk. Il accourait. Il se jeta sur le loup, qui se hâta de prendre la fuite. Presque aussitôt, apparaissaient Martin McCarthy et Murdoch, que Sim, Martin et Kitty venaient de rencontrer enfin à 2 miles de là. La petite Jenny était sauvée et sa mère la rapportait entre ses bras. Quant à petit bonhomme, dont Murdoch avait étanché la blessure, il fut ramené à la ferme et déposé sur son lit dans la chambre de grand-mère. Quand il eut repris ses sens, « Et Jenny ? » demanda-t-il. « Elle est là !» répondit Kitty. « Là, vivante, et grâce à toi, mon brave enfant !» Je voudrais bien l'embrasser. » Et dès qu'il eut vu la petite sourire à son baiser, ses yeux se refermèrent. Chapitre 15. Mauvaise année. La blessure de petit bonhomme n'était pas grave, bien que son sang eût abondamment coulé. Mais s'ils fussent arrivés quelques instants plus tard, Murdoch n'aurait relevé qu'un cadavre, et jamais Kitty n'eût revu son enfant. Dire que petit bonhomme fut entouré de soins affectueux pendant les quelques jours que nécessita son rétablissement, ce serait superflu. Plus qu'à aucun moment il sentit qu'il avait une famille, lui, ce pauvre orphelin dont ne savait qui. Avec quelle effusion son cœur s'ouvrait à toutes ses tendresses, lorsqu'il songeait à tant de jours heureux passés à la ferme de Kerouan. Et pour en savoir le nombre, ne lui suffisait-il pas de compter les cailloux que M. Martin lui remettait chaque soir? Celui qu'il lui donna après l'affaire du loup, quelle joie il eut à le glisser dans son vieux pot de grès! L'année achevée, la rigueur de l'hiver s'accentua au-delà du nouvel an. Il fallut prendre certaines précautions. De redoutables bandes de loups avaient été signalées aux alentours de la ferme, et le paillis des murs n'aurait pu résister à la dent de ces carnassiers. Monsieur Martin et ses fils eurent plusieurs fois à faire le coup de fusil contre ces dangereux fauves. Il en fut de même dans tout le comté, dont les plaines, pendant ces interminables nuits, retentissaient de lugubres hurlements. Oui, ce fut un de ces lamentables hivers qui semblent souffler sur l'Europe septentrionale toutes les bises âpres et pénétrantes des contrées polaires. Les vents du nord prédominaient, et l'on sait de quelle froidure hyperboréenne ils se chargent. Par malheur, il était à craindre que cette période se continuât outre mesure, comme se prolonge la période algide chez les malades dévorés de la fièvre. Et quand la malade, c'est la terre qui se pétrifie sous l'action des frimas, qui se gerce à la façon des lèvres d'un moribond, on est porté à croire que ses facultés productives vont pour jamais s'éteindre, ainsi qu'il en est de ces astres morts gravitant à travers l'espace. Les inquiétudes du fermier et de sa famille ne furent donc que trop justifiées par les rigueurs anormales de cette saison. Cependant, grâce aux produits de la vente des moutons, M. Martin avait pu faire face au paiement des taxes et des loyers. Aussi, lorsque l'agent du Middleman s'était présenté à Noël, avait-il reçu ses fermages intégralement. Ce dont il parut quelque peu surpris, car, moins favorisé dans la plupart des fermes, il avait dû procéder par voie de justice à l'éviction des tenanciers. Mais comment Martin McCarthy ferait-il face aux échéances de l'année suivante si l'excessive durée de l'hiver empêchait les prochaines semailles? D'ailleurs, il survint d'autres malheurs. Par suite de l'abaissement de la température, qui tomba à 30 degrés au-dessous de zéro, 4 des chevaux et 5 vaches périrent de froid dans l'écurie et l'étable. Il avait été impossible de clore suffisamment ces bâtiments, en mauvais état, qui cédèrent en partie sous l'impétuosité des bourrasques. La basse-cour même, malgré tout ce que l'on put imaginer, subit des pertes très sensibles. Chaque jour, la colonne du déficit s'allongeait sur le carnet de petits bonhommes. En outre, ce qu'il y avait à craindre, et ce qui eût réduit la famille à une situation des plus critiques, c'était que la maison d'habitation ne pût résister à tant de causes destructives. Sans cesse, M. Martin, Murdoch et Sim travaillaient à la réparer, à la consolider extérieurement. Mais ces murs en paillis, ces chaumes que le vent déchire, il est toujours à redouter qu'ils ne s'affaissent au milieu du tourbillon des rafales. Il y eut des journées entières pendant lesquelles personne ne put mettre le pied au dehors. La route n'était plus praticable et l'amas de neige y dépassait la hauteur d'un homme. Au milieu de la cour, le petit sapin, planté à la naissance de Jenny, ne laissait plus voir que sa tête blanche de givre. Rien que pour permettre l'accès aux étables, il fallut ménager une tranchée qu'il était nécessaire de désobstruer 2 fois par 24 heures. Le transport des fourrages d'un bâtiment à l'autre ne s'opérait qu'au prix d'excessives difficultés. Ce qui passait toute croyance, c'est que le froid ne perdait rien de son intensité, quoique la neige ne cessât de tomber en abondance. Il est vrai, ce n'était point une chute de légers flocons étoilés, mais une véritable averse de minces glaçons, projetée par les remous giratoires de la bourrasque. De là, un dépouillement complet de la frondaison des arbrisseaux et des arbres à feuilles persistantes. Entre les rives de la Cachaine, un embâcle se forma, qui atteignit des proportions énormes, on eût dit d'un véritable iceberg. Et c'était à se demander si les crues ne produiraient pas de nouveaux sinistres lorsque cette masse se liquéfierait aux premières chaleurs du printemps. Et dans ce cas, comment M. Martin et ses fils parviendraient-ils à préserver les corps de bâtiment si la rivière débordait jusqu'à la ferme? Quoi qu'il en soit, ils avaient à présent d'autres soins à prendre. Des précautions aussi pour l'entretien et la conservation du bétail. En effet, sous le fouet de l'ouragan, les chaumes des étables furent arrachés, et il y eut à les réparer d'urgence. Ce qui restait du troupeau de moutons, des vaches et des chevaux demeura sans abri à la rigueur de la température durant plusieurs jours, et quelques-uns de ces animaux périrent par le froid. On dut travailler à refaire les toitures, tant bien que mal, et cela au plus fort de la tourmente. Encore fallut-il sacrifier la partie antérieure des étables du côté de la route et les dépouiller de leur chaume afin d'en recouvrir l'autre portion. La maison d'habitation où logeait la famille McCarthy ne fut pas davantage épargnée. Une nuit, l'étage mansardé s'effondra, et Sim, qui l'occupait, dut abandonner le grenier pour s'installer dans la salle du rez-de-chaussée. Et alors, le plafond menaçant de s'écrouler à son tour, il fut nécessaire de placer des madriers de champ, afin de l'étayer, tant le poids des neiges fatiguait les solives. L'hiver s'avançait, et pourtant sans rien perdre de sa rigueur. Février fut aussi dur que janvier. La moyenne de la température se tint à 20 degrés centigrades au-dessous de zéro. On était dans la ferme comme des naufragés abandonnés sur un rivage polaire qui ne peuvent prévoir la fin de l'hivernage. Et par surcroît, la débâcle menaçait-elle de provoquer des catastrophes plus redoutables encore par le débordement de la Cachaine. Disons toutefois qu'au point de vue de la nourriture, il n'y avait pas lieu d'être inquiet. Viande et légumes n'étaient pas près de manquer. D'ailleurs, les bêtes abattues par le froid, vaches et moutons, faciles à conserver dans la glace, constituaient une abondante réserve. Puis, si la basse-cour était décimée, les porcs supportaient cette température, sans en trop souffrir. Et rien que par eux, l'alimentation eût été assurée pour une longue période. Quant au chauffage, il suffirait chaque jour d'aller chercher sous la neige les branches brisées par les rafales, afin d'économiser la tourbe qui commençait à s'épuiser. Du reste, robuste et bien portant, endurci de longues mains, le père et les fils étaient faits aux épreuves de ces rudes climats. Pour ce qui est de notre jeune garçon, il montrait une vigueur extraordinaire. Jusqu'alors, les femmes, Martine et Kitty, tout en prenant leur part de travail commun, avaient résisté. La petite Jenny, toujours tenue dans une chambre hermétiquement close, poussait comme une plante en serre chaude. Seule grand-mère était visiblement atteinte, malgré les soins dont on l'entourait. Et, en outre, ses souffrances physiques se doublaient de souffrances morales, à voir l'avenir des siens si compromis. C'était plus qu'elle ne pouvait supporter. Il y avait là un grave sujet d'inquiétude pour toute la famille. En avril, la température normale reprit peu à peu son cours en se relevant au-dessus de zéro. Néanmoins, le sol dut attendre les chaleurs de mai pour se dégager de sa couche de glace. Il était déjà tard, très tard en ce qui concernait les semailles. Peut-être les fourrages réussiraient-ils. Quant aux grains, ils n'arriveraient certainement pas à maturité. Aussi, pensait-on, mieux valait ne point risquer inutilement les semences et porter tous ses efforts sur la culture des légumes, dont la récolte pourrait avoir lieu à la fin d'octobre, et plus spécialement celle des pommes de terre, ce qui sauverait les campagnes des horreurs de la famine. Mais après la fusion des neiges, dans quel état trouverait-on le sol? Gelé sans doute à 5 ou 6 pieds de profondeur. Ce ne serait plus une terre friable, ce serait un humus dur comme le granit. Et comment le soc de la charrue parviendrait-il à l'entamer? Il fallut remettre au dernier jour de mai le commencement des labours. Il semblait que le soleil fût dépourvu de chaleur, tant la fonte des neiges s'opérait lentement. Et encore fut-elle retardée jusqu'en juin dans la partie montagneuse du comté. La détermination de se borner à la culture des pommes de terre et de renoncer aux grains fut générale chez les cultivateurs. Ce qui allait se faire à la ferme de Kerwan se ferait aussi dans les autres fermes du domaine de Rockingham. La mesure s'étendit même, non seulement au comté de Kerry, mais à ceux de l'Ouest Irlande, dans le Munster comme dans le Connaught et dans l'Ulster. Il n'y eut que la province de Leinster, dont le sol s'était plus rapidement débarrassé des glaces, où l'ensemencement put être tenté avec quelque espoir de succès. Ce qui en résulta, c'est que les tenanciers, si péniblement éprouvés, durent se résigner à de prodigieux efforts pour préparer les champs dans des conditions favorables à la production des légumes. À la ferme de Kerouan, M. Martin et ses fils s'attelèrent à cette besogne, d'autant plus rude que les animaux leur manquaient. Un seul cheval et l'âne accouplé, c'était tout ce dont ils pouvaient disposer pour la charrue, le rouleau ou la herse. Enfin, à force de travail pendant des journées de 12 heures, ils parvinrent à planter une trentaine d'acres en pommes de terre, tout en craignant que ce travail ne fût compromis par la précocité du prochain hiver. Alors apparut un autre désastre commun à toutes les contrées montagneuses de l'Irlande. À la fin de juin, le soleil répandit une ardeur excessive, et la fusion des neiges s'opéra par grandes masses sur les pentes. Peut-être la province du Munster, à cause des ramifications multiples de ses cours d'eau, fut-elle plus éprouvée que les autres. En ce qui concerne le comté de Kerry, cela prit les proportions d'un cataclysme. Les nombreuses rivières subirent des crues anormales qui provoquèrent d'immenses dégâts. Le pays fut largement inondé. Quantité de maisons, emportées par les torrents, laissèrent leurs habitants sans abri. Surpris par la soudaineté des crues, ces pauvres gens attendirent vainement des secours. Presque tout le bétail périt, et en même temps, les récoltes préparées avec tant de peine furent irrémédiablement perdues. Dans le comté de Kerry, une partie du domaine de Rockingham disparut sous les eaux de la Cachen. 15 jours durant, sur un rayon de 2 à 3 milles, les abords de la ferme se transformèrent en une sorte de lac, traversé de courants furieux qui entraînaient les arbres déracinés, les débris de cabanes, les toitures arrachées aux maisons voisines, toutes les épaves d'une vaste démolition, et aussi les cadavres d'animaux dont les paysans perdirent plusieurs centaines. La crue s'étendit jusqu'aux hangars et aux étables de la ferme, ce qui amena leur destruction à peu près totale. Malgré les plus énergiques efforts, il fut impossible de sauver le reste des bestiaux, sauf quelques porcs. Si la maison d'habitation n'avait pas été surélevée, le flot l'eût atteinte aussi, car la crue ne s'arrêta qu'au niveau du rez-de-chaussée, qui, pendant une nuit, se trouva menacée par ces eaux tumultueuses. Enfin, ce qui frappa le pays d'un dernier coup, le plus terrible, le plus désastreux, la récolte des pommes de terre fut entièrement anéantie au milieu de ces champs ravinés par les courants. Jamais la famille McCarthy n'avait vu apparaître sur son seuil un si effrayant cortège de misère. Jamais l'avenir ne s'était présenté sous un aspect si lugubre pour le fermier irlandais. Faire face aux nécessités de la situation devenait impossible. L'existence de ces malheureux allait être remise en question. Quand on demanderait à M. Martin de s'acquitter envers l'État, envers les propriétaires du sol, que répondrait-il? En effet, elles sont lourdes, ces charges du tenancier. Qu'ils reçoivent la visite du collecteur des taxes ou la visite du régisseur des landlords, c'est toujours le plus clair de son bénéfice qui passe dans leur poche. Si les propriétaires fonciers ont à payer 300 000 livres pour la propriété foncière et 600 000 livres pour la taxe des pauvres, les paysans sont encore plus écrasés par les impôts qui leur incombent personnellement, c'est-à-dire les redevances pour les routes, les ponts, la police, la justice, les prisons, les travaux publics, total qui s'élève au taux énorme d'1 million de livres sterling, rien que pour l'Irlande. Satisfaire à toutes ces exigences fiscales, lorsque la récolte a été bonne, lorsque l'année a laissé quelques économies, en un mot, quand les circonstances ont été favorables, cela est déjà très onéreux aux fermiers, puisqu'il lui reste encore à payer les fermages. Mais, lorsque le sol a été frappé de stérilité, quand la rudesse de l'hiver et les inondations ont achevé de ruiner un pays, alors que les spectres de l'éviction et de la famine se lèvent à son horizon, que faire? Cela n'empêche pas le collecteur de se présenter à son heure, et après sa visite, les dernières épargnes ont disparu. Ainsi arriva-t-il à Martin McCarthy. Où étaient les heures de joie et de fête que petit bonhomme avait connues pendant les premiers temps de son séjour? On ne travaillait plus, maintenant que le travail manquait, et durant ces longues journées, la famille, désespérée, chômait autour de grand-mère, qui dépérissait à vue d'œil. Du reste, cette avalanche de désastres avait écrasé la plupart des districts du comté. Aussi, dès le début de l'hiver de 1881, avaient éclaté partout les menaces de boycottage, c'est-à-dire la violence mise au service des grèves agraires afin d'empêcher l'allocation des terres ou leur mise en culture. Procédés inefficaces qui ruinent à la fois le fermier et le propriétaire. Ce n'est pas avec ces moyens que l'Irlande peut échapper aux exactions du régime féodal, ni amener la rétrocession du sol aux tenanciers dans une mesure équitable, ni abolir les funestes pratiques du landlordisme. Néanmoins, l'agitation redoubla au milieu des paroisses frappées par tant de misère. Au premier rang, le comté de Kewi se signala par le retentissement de ses meetings et l'audace des agents de l'autonomie qui le parcoururent en déployant le drapeau de la Landleague. L'année précédente, M. Parnell avait été nommé par 3 circonscriptions. Au profond effroi de sa femme et de sa mère, Murdoch n'hésita pas à se lancer à corps perdu dans ce mouvement. Bravant le froid et la faim, rien ne put l'arrêter. Il courut de bourgade en bourgade afin de provoquer une entente générale au sujet du refus des fermages et pour empêcher la location des terres après l'éviction des fermiers. M. Martin et Sim auraient en vain essayé de le retenir. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne l'approuvaient-ils pas, étant donné que leurs efforts n'avaient abouti qu'au dernier dénuement, et qu'ils se voyaient à la veille d'être chassés de la ferme de Kerouan depuis si longtemps dans leur famille. Cependant, l'administration, sachant que les cultivateurs seraient faciles à soulever après une année si ruineuse, avait pris ses précautions. Le lord lieutenant s'était hâté de donner des ordres en prévision d'une rébellion probable des nationalistes. Déjà, les escouades de la Mounted Constabulary parcouraient les campagnes avec mission de prêter main-forte aux huissiers et recors. Elles devaient également, si besoin était, dissiper les meetings par la force et mettre en état d'arrestation les plus ardents de ces fanatiques signalés à la police irlandaise. Évidemment, Murdoch serait bientôt de cela, s'il ne l'était à cette heure. Que peuvent faire les Irlandais contre un système qui repose sur 30 000 soldats campés, c'est le mot, en Irlande? Que l'on se figure les transes dans lesquelles vivait la famille McCarthy. Lorsque des pas résonnaient sur la route, Martine et Kitty devenaient toutes pâles. Grand-mère relevait la tête, puis, un instant après, la laissait retomber sur sa poitrine. Étaient-ce des gens de police qui se dirigeaient vers la ferme pour arrêter Murdoch, et peut-être aussi son père et son frère? Plus d'une fois, Martine avait supplié son fils aîné de se soustraire aux mesures dont les principaux membres de la Ligue agraire étaient menacés. Il y avait eu des arrestations dans les villes, et il y en aurait dans les campagnes. Mais où Murdoch aurait-il pu se cacher? Demander asile aux cavernes du littoral? Chercher refuge sous le couvert des bois pendant ces hivers de l'Irlande? Il n'y faut pas songer. D'ailleurs, Murdoch ne voulait se séparer ni de sa femme ni de son enfant. Et, en admettant qu'il fût parvenu à trouver quelque sécurité au milieu des comtés du Nord, moins soumis à la surveillance de la police, les ressources lui auraient manqué pour y emmener Kitty, pour subvenir aux nécessités de l'existence. La caisse nationaliste, bien que ses revenus s'élevassent à 2 millions, ne pouvait suffire au soulèvement contre le landlordisme. Murdoch demeurait donc à la ferme, quitte à s'enfuir si les constables arrivaient pour y perquisitionner. Aussi surveillait-on les allées et venues sur la route. Petit Bonhomme et Burke rôdaient aux alentours. Personne n'aurait pu s'approcher d'un demi-mille sans être aussitôt signalé. En outre, ce qui inquiétait bien autrement Murdoch, c'était la prochaine visite du régisseur, chargé de toucher les fermages à l'échéance de Noël. Jusqu'alors, Martin McCarthy avait toujours été en mesure de s'acquitter au moyen des produits de la ferme et des quelques économies réalisées sur les années précédentes. Une ou deux fois seulement, il avait demandé et obtenu, non sans peine, de courts délais afin de parfaire le montant des redevances. Mais aujourd'hui, comment se fût-il procuré de l'argent? Et qu'aurait-il cherché à vendre, puisqu'il ne lui restait plus rien? Ni des bestiaux qui avaient péri, ni de son épargne que les taxes avaient dévorée. On n'a point oublié que le propriétaire du domaine de Rockingham était un lord d'origine anglaise qui n'était jamais venu en Irlande. En admettant que ce lord eût été animé de bonnes intentions envers ses tenanciers, il ne les connaissait pas. Il ne pouvait s'intéresser à eux, eux ne pouvaient recourir à lui. Dans l'espèce, le middleman, John Eldon, qui avait pris à son compte l'exploitation du domaine, habitait Dublin. Ses rapports avec les fermiers étaient peu fréquents, et il laissait à son régisseur le soin de faire les rentrées aux époques d'usage. Ce régisseur, qui se présentait une fois l'an chez le fermier McCarthy, se nommait Harbert. Âpre et dur, trop habitué au spectacle des misères du paysan pour s'en émouvoir, c'était une sorte d'huissier, d'homme saisi, d'homme protet, qu'aucune supplication n'avait jamais pu attendrir. On le savait impitoyable dans l'exercice de son métier. En parcourant les fermes du comté, il avait déjà donné la mesure de ce dont il était capable. Familles chassées sans merci de leur froide demeure, délais refusés alors même qu'ils auraient permis de sauvegarder une situation. Porteur d'ordre formel, on eût dit que cet homme prenait plaisir à les appliquer dans toute leur rigueur. Hélas, l'Irlande n'est-elle pas toujours ce pays où l'on a osé proclamer autrefois cette abominable déclaration? Ce n'est pas violer la loi que de tuer un Irlandais. Aussi l'inquiétude était-elle extrême à Kerwan. La visite d'Harbert ne devait plus tarder. Cette dernière semaine de décembre, il l'employait d'habitude à parcourir le domaine de Rockingham. Le matin du 29 décembre, Petit Bonhomme, qui avait été le premier à l'apercevoir, accourut en toute hâte prévenir la famille réunie dans la salle du rez-de-chaussée. Tous étaient là, le père, la mère, les fils, la bisaïeule et son arrière-petite-fille que Kitty tenait sur ses genoux. Le régisseur repoussa la barrière, traversa la cour d'un pas déterminé, le pas du maître, ouvrit la porte de la salle et, sans même ôter son chapeau, sans saluer d'un mot de bonjour, en homme qui se sent plus chez lui que ceux dont il envahit le domicile, il s'assit sur une chaise devant la table, tira quelques papiers de sa sacoche de cuir et dit d'un ton rude « C'est 100 livres que j'ai à toucher pour l'année écoulée, McCarthy. Nous sommes d'accord, je suppose. » « Oui, monsieur Harbert, » répondit le fermier dont la voix tremblait légèrement. « C'est bien 100 livres, mais je vous demanderai un délai. Vous m'avez quelquefois accordé... » « Un délai! Des délais !» s'écria Harbert. « Qu'est-ce que cela signifie? Je n'entends que ce refrain dans toutes les fermes. Est-ce avec des délais que M. Eldon pourra s'acquitter envers Lord Rockingham ?» L'année a été mauvaise pour tous, monsieur Harpert, et vous pouvez croire que notre ferme n'a pas été épargnée.
Cela ne me regarde pas, McCarthy.
Petit bonhomme, blotti dans un coin sombre, les bras croisés, l'œil grand ouvert, écoutait.
Voyons, monsieur Harpert, reprit le fermier, soyez pitoyable au pauvre monde. Il ne s'agit que de nous donner un peu de temps. Voici la moitié de l'hiver qui est passée, et elle n'a pas été trop rigoureuse. Nous nous rattraperons à la saison prochaine.
Voulez-vous payer, oui ou non, McCarthy ?
Nous le voudrions, monsieur Harpert. Écoutez-moi, je vous assure que cela nous est impossible.
Impossible ! S'écria le régisseur. Eh bien, procurez-vous de l'argent en vendant.
Nous l'avons fait, et ce qui nous restait a été détruit par l'inondation. On n'aurait pas 100 shillings du mobilier.
Et maintenant que vous ne serez même pas en état de commencer vos labours, s'écria le régisseur, vous comptez sur la prochaine récolte pour vous acquitter? Allons donc. Est-ce que vous vous moquez de moi, McCarthy?
Non, monsieur Harbert, Dieu m'en préserve, mais par pitié, ne nous ôtez pas ce dernier espoir.
Murdoch et son frère, immobiles et muets, ne contenaient pas sans peine leur indignation à voir le père se courber humblement devant cet homme. En ce moment, grand-mère, s'étant redressée à demi sur son fauteuil, dit d'une voix grave
« Monsieur Harpert, j'ai 77 ans, et depuis 77 ans je suis dans cette ferme, que mon père dirigeait avant mon mari et mon fils. Jusqu'à ce jour, nous avons toujours payé nos fermages. Et pour la première fois que nous lui demandons une année de répit, je ne croirai jamais que Lord Rockingham veuille nous en chasser. »
Il ne s'agit pas de Lord Rockingham,
répondit brutalement Harbert.
Il ne vous connaît même pas, Lord Rockingham. Mais Monsieur John Eldon vous connaît. Il m'a donné des ordres formels, et si vous ne payez pas, vous quitterez Kerouan.
Quitter Kerouan ? S'écria Martine, pâle comme une morte.
« Dans les 8 jours. »«
Et où trouverons-nous un abri ?»«
Où vous voudrez. »
Petit bonhomme avait vu de bien tristes choses déjà. Il avait subi lui-même d'affreuses misères. Et pourtant, il lui semblait qu'il n'avait jamais assisté à rien de pareil. Ce n'était pas une scène de pleurs ni de cris, et elle n'en était que plus effrayante. Cependant, Harbert s'était levé, et, avant de remettre les papiers dans la sacoche,
« Encore une fois, voulez-vous payer ? » demanda-t-il.
« Et avec quoi ?»
C'était Murdoch, qui venait d'intervenir en jetant ces mots d'une voix éclatante.
« Oui, avec quoi ? »
répéta-t-il, et il s'avança lentement vers le régisseur. Harbert connaissait Murdoch de longue date, et il n'ignorait pas qu'il était l'un des plus actifs partisans de la Ligue contre le landlordisme. Et sans doute, la pensée lui vint que l'occasion était bonne d'en purger le pays. Aussi, ne croyant pas devoir le ménager, répondit-il ironiquement avec un haussement d'épaule.
« Avec quoi payer, demandez-vous ?
Ce n'est pas en allant courir les meetings, en se mêlant aux rebelles, en boycottant les propriétaires du sol. »
C'est en travaillant.
En travaillant ? Dit Murdoch, qui tendait ses mains durcies au labour.
Est-ce que ces mains-là n'ont pas travaillé ? Est-ce que mon père, mes frères, ma mère se sont croisés les bras depuis tant d'années dans cette ferme ?
Monsieur Harbert, ne dites pas ces choses-là, car je ne suis pas capable de les entendre. Murdoch acheva sa phrase par un geste qui fit reculer le régisseur. Et alors, laissant sortir de son cœur tout ce que l'injustice sociale y avait amassé de colère, il le fit avec l'énergie que comporte la langue irlandaise, cette langue dont on a pu dire « Quand vous plaidez pour votre vie, plaidez en irlandais ». Et c'était bien pour sa vie, pour la vie de tous les siens, qu'il se laissait entraîner à de si terribles récriminations. Puis, son cœur soulagé,
il alla s'asseoir à l'écart.
Sim sentait l'indignation bouillonner en lui comme le feu dans une fournaise.
Martin McCarthy, la tête baissée, n'osait pas interrompre le silence accablant qui avait suivi les violentes paroles de Murdoch. D'autre part, Harbert ne cessait de regarder ces gens avec autant de mépris que d'arrogance.
Martin se leva et, s'adressant au régisseur, « Monsieur, lui dit-elle, c'est moi qui viens vous implorer. Vous demandez un délai. Cela nous permettra de vous payer. Quelques mois seulement. Et à force de travail, quand nous devrions mourir à la peine. Monsieur, je vous supplie. Je vous prie à genoux. Par pitié. »
Et la malheureuse femme s'abaissait devant cet homme impitoyable qui l'insultait rien que par son attitude.
« Assez, ma mère ! Trop, trop d'humiliation !» dit Murdoch, qui obligea Martine à se relever. « Ce n'est pas par des prières que l'on répond à de tels misérables. »
« Non, répliqua Harbert, et je n'ai que faire de tant de paroles.
De l'argent à l'instant même, ou avant 8 jours, vous serez chassé. »
Avant 8 jours ? Soit, s'écria Murdoch. « Mais c'est vous d'abord que je vais jeter à la porte de cette maison, où nous sommes encore les maîtres. »
Et, se précipitant sur le régisseur, il le prit à bras le corps, il le poussa dans la cour.
« Qu'as-tu fait, mon fils ? Qu'as-tu fait ? » dit Martine, tandis que les autres courbaient la tête.
« J'ai fait ce que tout Irlandais devrait faire, » répondit Murdoch. « Chasser les lords de l'Irlande, comme j'ai chassé leur agent de cette ferme. »